Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Stéphane Le Foll.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Dites-nous, ça n'a pas traîné ? Le PS vend son siège de la rue de Solferino, décision annoncée hier soir. Il y avait urgence ? Il faut aller liquider le passé très vite ?
Je n'en sais rien. Moi, ça me rend très triste, tout ça, parce que c'est toute une histoire. J'entends certains qui s'expriment en disant c'est génial, on va pouvoir changer de lieu, puis on va se rapprocher des couches populaires, puis comme ça, les couches populaires vont voter pour nous. On va bientôt aller dans la Creuse, d'ailleurs, parce qu'il faudra se rapprocher des couches rurales aussi. Je trouve tout ça un peu... Bon, pas à la hauteur, mais enfin, c'est fait, c'est annoncé.
Qui a pris la décision, donc ?
Qui prend la décision ? Alors, c'est un bureau national, sur la présentation, semble-t-il, des comptes par le trésorier du Parti Socialiste. Jusqu'ici, d'ailleurs, on n'a toujours pas eu de
comptes
de présenter, de libération, oui, bon. Ouais. Donc hier soir, il y a eu ce débat, je ne vais pas y revenir, puisque de toute façon, il a eu lieu. Maintenant, ça ne fait que renforcer, en tout cas, la volonté qui est la mienne, d'essayer de reconstruire quelque chose qui est de l'ambition, hein, après cette période.
Vous trouvez que la décision n'est pas à la hauteur de l'ambition ? Certains veulent que le PS s'installe, dans un quartier populaire, pour se redonner de l'air,
la
etc.
Creuse.
Ça a du sens ? Non, mais ça a du sens, est-ce que parce que...
Non, ça n'a aucun sens. De dire ça, ça n'a aucun sens. J'ai jamais rencontré un électeur qui est venu me voir en me disant « Je vote pour vous si vous quittez Solferino ». Franchement, celui qui pense ça, faut qu'il vienne me faire la démonstration. Il y en a d'ailleurs qui le pensent, d'ailleurs. C'est ça qui m'étonne le plus. Et qui m'inquiète d'ailleurs le plus.
Qui pense quoi ? Qui pense que le lieu égale la ligne.
Égale la ligne.
Égale des votes.
C'est ça. Franchement, bon, tout ça...
Il y a des partis qui sont installés effectivement dans des lieux, ça ne leur donne aucun électeur. On a des
Et si ce lieu a été choisi, il faut s'en rappeler, parce que François Mitterrand, le PS, était cité Malesherbes. Donc, ils sont revenus vers le Palais Bourbon. Et il avait dit, et j'en ai discuté avec André Léniel, qui était celui qui avait signé l'achat de Solferino. Il avait dit, il faut, puisqu'on a vocation à gouverner un jour, être dans les lieux de pouvoir. C'était pour ça qu'il était là, ce siège.
Et donc, être proche des lieux de pouvoir.
Mais exactement, parce que il avait, et c'était stratégique, nous avons vocation à être un parti de gouvernement, donc il faut être proche des lieux de pouvoir. C'était ça, ce que m'a dit d'ailleurs André Léniel, qui, je vous le dis et je vous le rappelle, avait signé le chèque.
Cette liquidation de la rue de Solferino, vous en avez parlé à François Hollande. Il a été premier secrétaire avec vous. Vous étiez son lieutenant pendant des années dans ce siège symbolique, mythique.
11. J'en ai pas parlé, en tout cas. Moi, ce que je vous dis ce matin, c'est ce que je pense. Voilà. Ouais. Et je sais que...
Et vous,
quand on a été...
vous pensez qu'il...
Je peux pas vous dire ce qu'il pense exactement. Je sais ce qu'il a fait quand il était au siège de Solferino, ce qu'on a été et ce qu'on a fait ensemble avec ceux qui étaient aux responsabilités à l'époque. À la fois une animation de tout ce parti, des fédérations, des banquets républicains, les déplacements. Ce qu'il faut qu'on retrouve avec cet esprit qui devait être celui d'une grande famille socialiste. Et puis on a été sérieux en termes de gestion. Bon, voilà. Après, maintenant, il faut ouvrir une nouvelle phase.
Pour finir, est-ce que vous demandez quand même à vérifier que les comptes rendent inévitable, inéluctable cette décision surprise ?
J'espère. J'ose même pas imaginer qu'on puisse me dire qu'en fait, on aurait pu faire autrement. Voilà.
Vous pensez...
Si, c'est bien parce qu'on est dans une situation qui est extrêmement difficile, qui n'offre plus d'autres solutions... qu'on prend cette solution, j'espère. Parce que s'il y avait d'autres solutions, franchement, il fallait prendre les autres solutions.
Donc vous attendez quand même qu'on vous en apporte la
preuve. On en discutera au Conseil national.
Stéphane Le Foll, vous avez un point d'accord avec Emmanuel Macron, c'est peut-être pas le seul. Il a dit cette nuit sur la chaîne américaine CNN, « Je crois dans la démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas la rue. » Et vous, il y a quelques jours, je ne suis pas partisan d'une démocratie qui se passe dans la rue. C'est pas démocratique de manifester ?
Si, c'est parfaitement démocratique. Mais quand on m'a posé la question de savoir pourquoi j'appelais pas ou j'allais pas manifester, j'ai rappelé simplement deux choses. Il y a 5 mois, j'étais ministre. J'aurais bonne mine d'aller maintenant dans la rue, 5 mois après, comme si il n'y avait pas eu des manifestations. Et en tant que ministre de l'Agriculture, vous vous en souvenez d'ailleurs, souvent invité par RTL, pour venir parler de ce qui se passait. Donc, il y a des organisations syndicales qui appellent à manifester, mais ça, c'est légitime. Considérer que la rue, comme ça a été dit, serait l'endroit où on allait remettre en cause des décisions démocratiques, ça, c'est un autre sujet. Hein ? Et c'est ce qui a été dit.
Jean-Luc Mélenchon dit, en démocratie, le vote fixe la décision, pas la conviction. Donc, on peut très bien...
Oui, mais il avait dit autre chose. Ouais. on ira chercher dans la rue ce qu'on n'a pas obtenu.
Dans les urnes.
Voilà. Donc, il avait dit autre chose. Là, je vois bien qu'ils cherchent à changer un peu de position. Enfin, ils avaient dit autre chose. La rue, rappelez-vous de ce discours de Marseille, je crois, hein, faut une déferlante, le dégagisme va continuer. Enfin, franchement, si c'est ça la démocratie, non. C'est pas ma conception de la démocratie.
Mais alors, quand on n'est pas d'accord avec une loi, avec le détail d'une loi dont on estime qu'elle n'a pas été totalement dévoilée pendant la campagne, on est en droit d'aller le dire, non ?
Mais je ne le remets pas en cause. Je dis simplement que le droit de manifester, mais ça ne se discute même pas. Mais de considérer que la rue est le lieu où on peut rediscuter des choix démocratiques, c'est un problème. Ça, c'est autre chose.
C'est vrai que c'est compliqué pour vous. Vous l'avez dit, vous étiez ancien ministre encore récemment. Vous avez en plus appelé à voter Emmanuel Macron pour faire battre Marine Le Pen. C'est compliqué de manifester contre une loi travail qui était dans le programme et qui, en outre, est le prolongement de la loi El Khomri. Donc,
mais je me souviens très bien que dans le débat, oui, c'est compliqué, mais même au-delà de ça, et c'est compliqué, c'est pas compliqué, parce qu'au fond, ce qui n'a pas été mis dans la loi qui a été présentée par Myriam El Khomri et que, à l'époque, Emmanuel Macron souhaitait le plafonnement des indemnités prud'homales, le fait d'aller plus loin dans la négociation au niveau des entreprises, d'avoir une négociation d'ailleurs, une absence de présence de syndicats pour négocier dans les petites entreprises, tout ça, ça n'a pas été mis dans la loi de Myriam El Khomri. Pour des bonnes raisons, c'est qu'on le souhaitait pas. Maintenant, je vais pas remettre en cause le fait que Emmanuel Macron, déjà à l'époque, voulait aller plus loin et que quand il s'est présenté, il l'a proposé. Paraît évident. C'est pas pour autant que moi je suis d'accord, par exemple, pour faire disparaître les syndicats de toutes les petites entreprises. C'est ridicule.
Benoît Hamon, lui, manifestera aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais Benoît,
il était aussi au gouvernement, bien avant vous.
Oui, il y avait même plus haut dans la hiérarchie gouvernementale. Je rappelle qu'il était numéro 3 du gouvernement.
Ouais, c'est une erreur.
Mais c'est une erreur. D'aller manifester avec la CGT, très bien. D'aller manifester avec Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire, et il l'a déjà fait cette erreur. Pendant la présidentielle, il a cru que le rassemblement ou l'unité primait sur le projet politique. C'est pas vrai. Quand Mitterrand, pour revenir à Mitterrand, crée le Parti Socialiste, c'est face au Parti Communiste. Après, il fait l'Union de la Gauche. Mais il crée un parti avec une identité. Et là, il y a une espèce de confusion dans la stratégie qui fait des échecs, parce qu'on va quand même en reparler un jour, mais et qui, pour moi, est une erreur. Donc, on doit d'abord être nous-mêmes avant de rassembler. Mais si la seule question qui est posée, c'est le rassemblement, eh bien, on se rassemble avec celui qui, aujourd'hui, ça a été dit par M. Calvi tout à l'heure, apparaît comme le premier opposant. Ben, rangez-vous derrière le premier opposant, vous serez rangé derrière. Moi, je ne me range pas derrière.
Il risque de se faire absorber, comme le Parti communiste, avant lui.
Bien sûr.
C'est ça.
Le Parti communiste a essayé de taper un peu du poing sur la table, si j'ai bien compris, avec Pierre Laurent à la Fête de l'Humanité.
Oui, mais un peu trop tard.
Oh, écoutez, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, on doit faire mettre en place une stratégie et une identité. Et
oui, alors pour le coup, il faut se dépêcher, parce qu'à la question « Pourquoi êtes-vous devenu le premier opposant ?» Aussi parce que les autres ne s'opposent pas, dit Mélenchon, il n'a pas tort. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous n'existez
Mélenchon,
pas, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de troupes, c'est compliqué.
Oui. Donc de toute façon, je vois bien quelle est la manière dont tout ça sera présenté. Oui, Mélenchon est le premier opposant. Et par définition, c'est consubstantiel à son identité politique. Donc, que les gens à qui vous posez la question qui est le premier opposant vous répondent Jean-Luc Mélenchon, ça me paraît normal.
Mais c'est pas faux.
C'est vrai. Non. Puisque c'est sa manière de faire de la politique. Alors après, on est 4 mois après une élection présidentielle. Les prochaines échéances, c'est dans 3 ans. On verra qui sera capable d'incarner une alternance ou une alternative. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon, avec les propositions qui sont les siennes sur l'Europe, sur l'économie, sur le retour à la planification, soit une solution d'alternative. Voilà ma pensée profonde. Alors on pourra toujours dire aujourd'hui, vous êtes inaudible, vous n'avez plus d'argent, on vous entend plus. Eh bien moi, je parlerai, je dirai ce que j'ai à dire, et puis on verra à la fin. Voilà.
Deux mesures gouvernementales, très vite, les classes de CP dédoublées dans les écoles en ZEP. Nouvelle prime à l'achat pour une voiture propre, neuve ou occasion, doublée pour les ménages non imposables. Un gouvernement socialiste aurait pu les adopter, sans des mesures de gauche.
ZEP, dédoublement des classes, oui. Mais dans le même temps, je vous le rappelle, remise en cause de la semaine de 4 jours et demi. J'ai regardé le rapport de l'OCDE. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la moyenne européenne de jours de classe pour les élèves en Europe, c'est 180 jours. On était revenu à 166 jours avec les 4 jours et demi. On va redescendre à 144 jours de classe. Moins de jours de classe, plus de journées chargées, c'est moins de pédagogie. Donc, si je suis d'accord avec le dédoublement sur le CP, franchement, remettre en cause les rythmes scolaires, simplement parce que les parents préfèrent qu'on parte samedi, que les enseignants ne sont pas non plus pour rallonger, je trouve qu'à la fin, ceux qui perdent, c'est les élèves et c'est les enfants.
C'est dit. Merci Stéphane Le Foll d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL.
Stéphane Le Foll qui rappelle à l'histoire du Parti Socialiste, même pour ceux qui, comme Benoît Hamon, défilent avec Jean-Luc Mélenchon ou les communistes sur la vente de Solférino. Ça me rend très triste, nous a dit Stéphane Le Foll, qui par ailleurs n'ira donc pas défiler ou manifester contre une loi qu'il approuvait lorsqu'il était lui-même ministre. Non, nous sommes d'accord.
C'est pas pareil, parce que justement, il n'y avait pas tout, c'est ce que j'ai dit. Oui. Il y a plus dans celle-là que ce qu'il y avait dans la précédente.
Bon, bah vous faites bien de me reprendre alors.
Oui, mais c'était juste gentiment. Parce que je suis déjà très content d'être là, vous savez.
Merci donc, à tous les
comme on n'entend plus le PS, qu'il n'y a plus rien du tout. Donc venir sur RTL un matin, je suis avec M. Calvi et Mme Martichoux, franchement, vous ne pouvez pas savoir quel est le bonheur.
Bonne journée à vous, on est
allez,
là
pour 22.
En plus, le café est bon.
C'est vrai.